veux-tu me fiancer? Mmh. Rosie,
oui.
C'est-tu pour cette année?
Bon, nous, on est déjà fiancés.
Ah, c'est fait. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est veux-tu me marier?
T'as-tu 10 000 piastres? C'est juste ça qui
m'a... Ben, ça joue avec différents budgets, mais...
Ouais, mais c'est sûr, mais il faut faire attention, parce que se marier trop jeune, je l'ai toujours dit, hein, se marier à 18 ans, c'est comme... super à 5 heures, tu finis par grignoter d'autres choses en soirée.
Quoi? Oh, c'est bon!
Non, mais écoute, les statistiques le disent. Je veux attirer votre attention là-dessus, là.
C'est une très belle analogie.
Ben oui, ben écoute, c'est une belle analogie.
Seriez-tu du vécu, ça?
Non, pas du vécu. Non. Les personnes qui se marient tôt, tu t'es marié quand même, Eric.
Tard,
c'est quoi?
Il y a cinquantaine.
Puis ta fréquentation est là depuis de nombreuses années quand même. Ça faisait pas 6 mois, là.
Non, ça faisait des années.
C'est important de bien se connaître, c'est oui. Sûr, c'est juste simplement ça. Les statistiques le révèlent, les personnes qui se marient à 18 ans, parce qu'il y en a des gens qui se marient très tôt, puis c'est correct, le geste est là, j'ai le goût de te marier parce que je t'aime et tout ça, mais c'est jeune, 18 ans, là, quand même. T'as pas fait de ta vie, rien. T'es encore un jeune ou une jeune là, à cet âge-là.
Vieil ado ou jeune adulte,
exactement.
Ça dépend.
Il y a 60% des chances de divorcer. C'est pas, j'invente rien, là. C'est quand même plus de la moitié. Alors, les gens qui se marient, par exemple, à 23 ans, on parle de rien que de 5 ans d'écart, ben, ça tombe à 30% des chances de divorcer par la suite.
Okay.
Alors, il y a une certaine maturité qui est importante là, avant de poser ce geste-là. Parce que si tu regardes, là, 60%, c'est beaucoup.
Ouais, c'est beaucoup.
Divorce. Et c'est pas le fun de divorcer à cet âge-là aussi.
Non.
Ta vie commence.
C'est jamais le fun.
C'est jamais le fun de divorcer. Change de registre, on parlait du changement d'heure.
Oui.
Ça affecte beaucoup le changement d'heure. On en a parlé à quelques reprises. Les gens ont de la difficulté à s'adapter. Ça, même qu'on se dit, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on n'abolit pas ça, le fameux changement d'heure?
Je suis en faveur, moi, qu'on se capte ça.
Oui, parce qu'on regarde le nombre de crises cardiaques. Semble-t-il, c'est répertorié. Là. Je suis tombé sur des nouvelles statistiques. 25%, ça augmente de 25% le lundi suivant le passage d'heure en été.
Ben voyons.
C'est énorme, là. Écoute.
C'est pas insignifiant. Il y a un lien, là.
Ouais. Ben, on n'est pas sûr. On dit que ce serait sûrement dû au stress qui est subi, que subit le corps par ce changement d'heure-là, à cause d'un changement de rythme de sommeil combiné au stress de reprendre une nouvelle semaine. Alors,
c'est. Mais quand même, hein? Tu disais que c'est quoi l'expression de ton père, là, de son vivant? On n'est pas fait. Disait tantôt, à micro fermé, ils sont pas fait fort ou.
On n'est pas fait fort, on dit. On n'est pas. Ouais,
il y avait une expression. Mais si ça prend juste un changement d'heure, Chris, pour faire une crise cardiaque,
non.
Attends un peu, là.
Oui, mais écoute, et là, je vais vous parler de ben, tu sais, c'est 25%, mais je vais dire, est-ce que c'est parce que ça arrive là, puis c'est un addon, mais ça a été répertorié comme une statistique à l'effet que c'est pas bénéfique pour le corps, puis on a de la misère à s'ajuster avec ça au niveau de notre horloge biologique, et ça peut... Puis là, il faudrait voir aussi dans quel groupe d'âge. J'imagine que c'est pas des gens qui sont très jeunes, là, qui vont subir des crises cardiaques en raison de changement d'heure.
J'ai peur pour ma vie avec l'horaire qu'on a de se lever tôt la semaine, moins tôt la fin de semaine, puis on est tout débalancé, là.
Oui. Mais je vais vous parler de consommation d'alcool, parce qu'à cette période-ci de l'année, on est plus... Non, mais écoute, on consomme davantage. Et ça, j'ai fait le saut quand j'ai vu là-dessus. Il semble que peu de gens ont compris le message selon lequel voiture et alcool, ça devrait jamais être jumelé. Mm-hmm. Et j'insiste. Et ça, j'ai capoté quand j'ai vu ça. En moyenne, les gens conduisent là, en état d'ébriété plus de 80 fois avant leur première arrestation.
Wow,
80 fois. Wow, là, je parle pas de sous-botte là, et être chaud. Là. Je parle juste de dépasser le seuil du point 0,8.
Ouais.
Alors, selon les statistiques, là, nous, Québécois, là, on aurait pris notre voiture au moins 80 fois avant de se faire prendre. Et peut-être que tu ne feras jamais prendre. Mm. On ne sera pas de cachette là, ici. Là. On s'en dit les vraies affaires.
Elle
là.
Est d'une autre génération. Là. Ils ont été mieux drillés.
Moi, j'ai jamais
vraiment mieux drillé.
J'ai jamais conduit.
Mais moi, c'est peut-être arrivé qu'après un repas, une bouteille de vin plus jeune, écoute, ça fait longtemps que j'ai un permis de conduire et j'ai travaillé même d'un bar et je suis parti d'un bar après avoir travaillé, consommé de l'alcool, j'étais DJ et j'ai suis persuadé que je devais dépasser. C'est pas le fun d'entendre, puis c'est pas le fun à dire, mais c'est quand même correct de le dire aussi, que je dépassais le point 0,8. Ouais. Mais les statistiques le montrent. Alors, tu sais, 80 fois, c'est du stock.
Puis si on se dit les vraies affaires, tu sais, quand on était jeune adulte,
oui.
Tu sais, les choses ont évolué depuis ce temps-là. Mais quand on était jeune adulte,
On prenait notre char, c'est arrivé plusieurs fois. Aujourd'hui, on désigne quelqu'un pour conduire et on fait affaire ou encore à des services de raccompagnement qui sont là pour nous aider.
Les rouges est là pendant les fêtes.
Ouais.
Oui. Mais on appelle ça de la conscientisation sociale.
Oui.
Conscientisation sociale.
Tu peux